Nous sommes en janvier 2011 et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Duteil et Valentin Lefebvre, qui m'accueillent dans les locaux de la société Hippone pour nous présenter l'Arena. Bonjour Christophe, bonjour Valentin.
Bonjour.
Je peux vous laisser vous présenter ?
Alors, on commence par moi, tiens.
On va commencer par Valentin.
Alors, Valentin, je suis ingénieur. J'ai bossé chez Thales il y a très longtemps, dans les simulateurs, là où j'ai rencontré Christophe, il y a très longtemps. Parce qu'on n'est pas tout jeune, mais encore un peu jeune, mais pas trop. Entre deux. Ensuite, après ça, j'ai monté une première boîte qui s'appelle Total Immersion, qui fait de la réalité augmentée. Un terme barbare il y a 10 ans et qui est moins barbare maintenant, c'est l'insertion d'images de synthèse mixées dans des images vidéo. Le truc de base, c'est par exemple, tu filmes la table et puis on te met une voiture virtuelle sur la table, ou au Futuroscope, tu vois à travers des jumelles, des animaux virtuels, des choses comme ça. Et puis en 2008, c'est comme ça faisait 10 ans. Et puis la quarantaine arrivant, tu sais, on se remet beaucoup en question. J'ai été super content de remonter une deuxième boîte avec Christophe, qui s'appelle Hippone, sur une idée de Christophe, dont j'ai trouvé un moyen technique intéressant pour pouvoir faire le fantasme de Christophe. Et donc je laisse Christophe se présenter.
En fait, Hippone, c'est ta crise de la quarantaine,
voilà.
Et le fantasme de Christophe. Et
exactement.
D'accord.
Alors, c'est aussi ma crise de la quarantaine, en l'occurrence. Donc, Valentin est le CTO de la société. Moi, je suis le CEO.
Excuse-moi, quelle est la différence ?
Alors, le CTO, c'est le Chief Technical Officer. Donc, c'est le directeur technique, si on doit donner des termes français. Et le CEO, c'est le Chief Executive Officer. C'est grosso modo le directeur général. Je suis CEO, mais et surtout, je suis un gamer. Et donc, j'ai eu ma crise de la quarantaine, moi aussi. Et ça a consisté à vouloir me réaliser, de faire le produit dont je rêvais, le fameux fantasme dont parle Valentin, qui serait un produit qui associerait le meilleur de deux mondes, le meilleur du jeu de société, l'aspect convivial, jouer à plusieurs, toucher des vrais objets, et puis le meilleur aussi du jeu vidéo, l'immersion sonore, multimédia, le côté high-tech finalement. Et c'est sur la base de cette idée, de merger un peu ces deux mondes, qu'on a créé la société. De cette idée, on a regardé ce qu'on pouvait faire techniquement. Valentin a trouvé des solutions excessivement inventives à ce sujet. Et on a donc monté la société en août 2010 sur la base de cette idée et de la technologie associée.
Tu joues à quoi ?
À tout. Pas les jeux d'argent beaucoup, mais je joue aux jeux de société. Alors ça va du Monopoly au Risk, pour m'appeler mes amours premières, et à des jeux, ce qu'on appelle l'Améritrash, tout ce qui va être des types spéciaux qu'on parlait de descente tout à l'heure, enfin dans cet univers-là. Mais je joue aussi à Cité des voleurs, enfin je joue à tout. Sur des supports carton, j'étais un gros joueur de jeux vidéo. Il y a très très longtemps avec Valentin, chez moi, dans mon salon, on faisait les premières parties en réseau. À l'époque où ça n'existait pas, on avait des connecteurs BNC, on faisait des parties en réseau infernales. Et avant ça, je jouais sur les jeux d'arcade. J'ai dépensé des fortunes en tant que jeune ado dans ce monde-là. Donc je joue à tout et puis je joue même à la belote, pour vous dire. Donc c'est très très large spectre. Et maintenant, je vais bientôt jouer au jeu Hippone.
Alors justement, c'est marrant, sans le savoir inconsciemment, on a fait une répétition de notre collaboration il y a très longtemps, et ça montre bien nos mentalités très très différentes. On faisait notamment des jeux, des parties en réseau, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais avant qu'on puisse jouer à des jeux massivement parallèles, chacun chez soi avec internet, les premiers jeux en réseau, c'était un réseau local,
des LAN parties.
Chacun amenait ses bécanes, et en fait moi j'allais aux après-midi organisés par Christophe, mais je suis un peu bizarre. Moi, j'étais plutôt content de faire marcher les choses, parce qu'à l'époque, le grand jeu, c'était de booter DOS, tu sais, avec les différents paramètres qui font que ça marchait. Il y avait aussi des problèmes réseau, parce que tu avais des câbles BNC avec des faux contacts, etc. Et moi, comme je te disais aussi tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, ça m'amuse plus, finalement, de voir les gens jouer avec quelque chose auquel j'ai participé techniquement, mais je ne suis pas forcément dans le process de jeu. Et j'étais déjà très content, une fois que la LAN commençait à la pouvoir fonctionner. Moi, j'étais déjà plus dedans. J'étais hyper content, j'avais résolu la problématique du jeu en réseau pour l'après-midi, et ça me suffisait à mon bonheur. Moi, je ne me présente pas comme un joueur invétéré comme Christophe. Je me présente comme quelqu'un qui effectivement cherche à rendre possible à un prix raisonnable tous ces trucs-là. Un prix raisonnable, alors on ne peut pas s'empêcher de penser à Microsoft Surface. Alors on en a beaucoup parlé, quand on est interviewé on les cite beaucoup, évidemment aujourd'hui c'est en dizaines de milliers de dollars, enfin ça a peut-être baissé un peu, je crois que c'est à 8 500 dollars. Ça fait quand même pas la même chose. Donc là du coup, comme j'embraye là-dessus, je vais juste décrire en quoi on est différent. Pourquoi est-ce que nous, on peut prétendre à faire cet écran interactif?
Excuse-moi, tu peux peut-être nous dire ce que oui, c'est que l'Arena,
voilà.
Peut-être.
Ce que c'est que l'Arena,
Nippon Arena.
Arena.
Oui.
Alors, techniquement...
Les deux produits ont le même nom?
Non, alors, l'Nippon Arena, c'est le produit avec écran. Donc, c'est un accessoire de smartphone qui va permettre de traquer des objets. Et on a une version sans écran, dont le petit nom est le Screenless Arena. Alors, on a pris des noms anglais pour plein de raisons. C'est que le marché est structurellement international dans ce monde-là. Et du coup, on a pris un nom de société typé anglais, pour que ce soit plus facile pour partout. Et puis, on a pris des noms de produits typés anglais aussi.
Par contre, vous n'êtes pas très sympa parce qu'il n'y a pas de version française de votre site.
Alors, il y a eu une version française. Et comme je suis très feignant pour la maintenance, je fais tout ça en anglais pour le moment. Mais c'est déjà un retour qu'on a eu plusieurs fois, effectivement, qu'il serait bien qu'il soit en français. Il est très probable que... J'en parle
alors,
en interne.
Effectivement, on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Effectivement, j'ai parlé trop tôt de Microsoft Surface. Alors, je voudrais apporter quelques précisions techniques sur notre fameuse Arena. Donc, comment ça fonctionne? Alors, je vais pas le décrire trop précisément parce que, d'abord, on a plusieurs brevets en cours. Mais je peux quand même en parler relativement, je pense, succinctement pour qu'on comprenne comment ça marche. En fait, on a dans la version avec écran, notre produit, c'est simplement en fait un écran avec entrée HDMI ou VGA. Ça n'est pas un ordinateur. Concrètement, tu vas brancher un device. Alors ce device, c'est soit le smartphone que tu as dans la poche, parce qu'aujourd'hui, les smartphones récents ont tous des sorties vidéo, par exemple HDMI. Si tu prends l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad, et même maintenant les derniers mobiles sous Android, un peu haut de gamme pour l'instant, il suffit d'ajouter un accessoire, c'est un petit câble qui vient se brancher sur l'appareil, et tout de suite tu as une sortie vidéo, parce que un des challenges pour eux, c'est d'occuper la télé du salon, et c'est de te permettre d'avoir des vidéos en streaming, par exemple, payantes. Donc cette stratégie-là, elle est intéressante parce que d'un côté, donc, on a ces acteurs du marché qui mettent des sorties vidéo sur tous leurs appareils. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a démarré en 2010 avec cette vision-là, qu'on allait tous avoir dans la poche de la puissance de calcul et il n'y avait plus besoin donc, de le mettre dans l'appareil. Donc premier point, donc, c'est un écran qui affiche en grand ce que génère finalement le téléphone. Deuxième point, c'est qu'heureusement pas seulement un écran, sinon on ne serait pas là.
Ouais. Ça serait une petite innovation.
Ce serait une toute petite innovation. Bien que déjà cet écran, il est fait pour être soit à l'horizontale, soit à la verticale, puisque c'est pour les jeux de plateau. Donc il est quand même pensé au niveau ergonomie pour pouvoir être dans différentes postures. Ensuite, le principal caractéristique technique, c'est qu'on a la capacité donc de traquer, donc c'est-à-dire de détecter très finement la position et la rotation de dizaines d'objets que tu vas poser donc sur l'écran, et tout ça en temps réel. Ça, c'est très important. Ce que j'appelle temps réel, c'est avec une fréquence de rafraîchissement importante, par exemple au moins la fréquence de l'écran, ce qui fait que quand tu déplaces ces choses-là, eh bien, tu vas voir les choses, par exemple virtuelles, qui vont se mettre en place sur l'écran, qui vont être qui vont suivre très très rapidement tout ce que tu vas faire sur cet écran. Et donc, cet écran, il a une particularité spéciale, c'est qu'il renvoie en temps réel à tous ces accessoires iPhone, etc., dont j'ai décrit, les positions et les identifiants de tout ce que tu vas mettre dessus. Et donc, juste encore un petit détail, parce que c'est moi le CTO, donc je peux pas m'en empêcher. On a développé, pourquoi le système est-il aussi... Il va pouvoir s'adapter à une production de masse, c'est qu'en fait, sous l'écran, on met un film plastique électromagnétique qui va capter en fait des ondes émises par tous les petits tags qui équipent les objets réels que tu vas poser sur l'écran. Et ça, je pense que c'est assez malin parce que le prix industriel, fait que globalement, comme dit souvent Christophe sur les salons, il a bien raison, ce qui drive le prix final de la solution, c'est la matrice LCD. C'est elle qui au niveau prix industriel, est le premier élément un peu cher de cette solution. Et en second ordre, on a notre capture de mouvement qu'on insère avec cette dalle. Et ça nous fait globalement, en gros, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore industriel, ça va bientôt l'être, mais tu vas pouvoir te payer ça quasiment au prix que tu te paierais un écran bureautique pour chez toi. Dernière chose, c'est effectivement un écran standard. Donc, une fois que tu as décidé de plus faire de jeu de plateau, tu peux aussi avoir du coup un moniteur informatique, voire même une télé. Enfin, il n'y aura pas de tuner, mais tu sais que maintenant, branché à tout ça, t'as l'appli TF1, l'appli M6 sur ton smartphone. Ouais. Donc évidemment, ça fera aussi télévision quelque part via le Wi-Fi que tu as chez toi, reçu par ton smartphone, qui lui-même après l'affiche en plus grand sur, ouais, sur cet écran. Donc finalement, trois usages pour un prix relativement abordable, relativement, parce que alors on l'a annoncé au CES entre 300 et 400 euros, disons, ou dollars. On essaye
d'être.
Donc euros voilà. en Europe, on va faire un peu comme Steve Jobs, disons. Ouais, ouais. Donc on a conscience que c'est encore un peu cher, mais bon voilà, c'est un bon début.
C'est un peu cher quand on voit une boîte FFJ à 80 euros. On a une plateforme là qui va permettre de jouer à des dizaines de jeux. Au bout de 4 jeux, c'est rentabilisé. Hein. C'est-à-dire qu'on a 4 fois le prix d'une boîte, d'une grosse boîte FFG. Hein. Vous achetez Gears of War, et puis, je sais pas, Mansion of Madness, et puis quelques-uns comme ça. Au bout de 3-4 jeux, on est quasiment. L'Ipone Arena est rentabilisée. La version avec écran, non, je parle. Hein, parce que la version sans écran, c'est même pas la première boîte. Quoi.
Je repense aux boîtes de descente que j'ai chez moi.
Ouais.
Il y a une grosse boîte, plus 4 ou 5 extensions.
Ouais.
Je pense qu'on n'est pas très très loin des...
Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que, on l'a dit, on a voulu adresser tous les gamers, les hardcore gamers, les fans d'Améritrash, qui jouent à Descent, etc. C'est plutôt la version avec écran, en termes de pricing, et puis en termes d'immersion. Hein, on va avoir toutes les règles de jeu qui vont être calculées automatiquement, les pions qui vont évoluer dans du monde virtuel très immersif, comme ça, avec des éclats de pyrotechnie en tous les sens. Mais on a aussi pensé aux familles, qui n'ont peut-être pas les mêmes budgets ou qui veulent jouer sur des jeux plus casual. Et là, c'est là que la Screenless Arena rentre en scène, puisqu'elle permettra finalement d'offrir la fonction de tracking. On mettra la piste en carton normale sur cette surface-là. On pourra jouer avec nos vrais pions sur la piste en carton. Par contre, l'affichage sera déporté sur un écran un iPad, une télé, un smartphone, pourquoi pas. Et on aura moins d'immersion, mais on aura quand même beaucoup d'aide en ligne. On aura toutes les règles qui seront gérées. Si on fait une erreur, on sera averti. On aura des informations relatives aux personnages qui seront affichées sur l'écran. Donc c'est un peu moins immersif. Peut-être que les gens qui jouent à Descent ne s'y retrouveront pas. Par contre, les gens qui jouent à des jeux plus casuels, je ne sais pas, je pense à la Cité des voleurs, par exemple, des jeux comme ça, ça pourrait aussi avoir un intérêt. Et là, on n'est plus à 400 $, on est plutôt sous la barre des 100, on est sous la barre dans le prix d'un jeu standard qui en moyenne c'est 45 €, on va être un peu plus que ça, mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Et on arrive à adresser finalement avec cette gamme de produits les deux grandes familles de joueurs que l'on peut trouver classiquement dans le domaine, quoi.
Alors moi, là où ça me parle, je me souviens dans mon enfance, quand j'étais au lycée, on avait peut-être une personne qui pouvait faire maître du jeu dans tous ces jeux d'aventure, là, tous ces role-playing games, comme on dit, pour 200 étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je faisais partie des gens qui avaient envie d'aller jouer le week-end, mais qui n'avaient pas ni la capacité ni l'envie de faire maître du jeu. Et ce qu'on prétend avec la Screenless Arena, c'est déjà énorme, c'est qu'il va y avoir autour de la table un maître du jeu informatique qui sera donc, par exemple, le smartphone, qui va, comme disait Christophe, qui va parler, qui va dire plein d'informations. Et je pense que c'est un vrai besoin, parce que Christophe, à l'époque, faisait partie de ces gens à qui on demandait « Est-ce que tu voudrais bien venir nous aider à jouer à tel jeu ?» Et ça l'embêtait parce qu'il avait envie d'être un des joueurs.
Moi, j'aimais ça un peu quand même.
Et il pouvait pas l'être. Donc, on a envie de l'automatiser, cette fonction. Voilà.
Tu as pris tout à l'heure l'exemple de Mansion of Madness, justement pour le Screenless Arena.
Alors, l'exemple de Mansion of Madness, c'est presque l'exemple phare. C'est même pour ça qu'on a mis une petite vidéo sur notre site avec cet exemple-là, et que je me suis permis d'envoyer la vidéo à Christian Petersen, le patron de FFG. C'est un jeu finalement qui suppose une phase de préparation qui est très longue. C'est pratiquement une demi-heure pour préparer plein d'indices dans les différentes salles avant de préparer l'exploration par les joueurs. Donc le maître de jeu, là, il a aussi un rôle de préparation un peu lourd qui peut éventuellement impatienter d'ailleurs les joueurs qui attendent avant de commencer la partie. Et puis ensuite, s'il fait la moindre erreur de préparation, au bout d'une heure de partie, on peut se rendre compte que la partie s'écroule parce qu'il a mis la mauvaise carte au mauvais endroit. Dans une version avec la Screenless Arena, on aura la même piste, les mêmes pions. Par contre, toutes les piles de cartes qu'on va empiler en préparation sur les différentes salles, on les enlève. Elles sont gérées par l'iPad, par exemple. Et comme les positions des différents personnages dans les différentes salles sont traquées très très finement, on sait dire que l'investigateur numéro X arrive dans la cuisine. Et là, sur l'iPad, vont s'afficher automatiquement, parce qu'on a chargé le bon scénario dans l'iPad, le bon niveau, les différents indices qui vont bien dans la bonne pièce. Du coup, pas de temps de préparation. C'est-à-dire qu'on dit à nos amis à 20h, on se retrouve faire une partie. On ne démarre pas la partie à 21h, elle démarre à 20h. Il n'y a aucun risque d'erreur. Et puis, on peut tous, du coup, jouer à l'investigateur sans forcément avoir le rôle qui est parfois un petit peu ingrat, en tous les cas un peu plus lourd, de maître de jeu. Il pourra être virtuel, ce maître de jeu, et on s'éclatera tous autour de la piste à investiguer et pas à préparer.
Alors maintenant, du coup, pour la cohérence du débat, on a parlé de Microsoft Surface tout à l'heure. Donc maintenant qu'on vient d'expliquer un petit peu nos deux technologies, là, la Nippon Arena et la Screenless Arena, donc c'est vrai que c'est un petit peu biaisé de dire que Microsoft sort quelque chose à 8 000 $, pendant que nous, on va sortir quelque chose à 400. Donc il faut rendre à César ce qu'il y a à César et expliquer pourquoi... on arrive à avoir des prix pareils par rapport aux fonctionnalités Microsoft. Alors je voulais juste expliquer un petit peu comment marchait le Microsoft Surface. En fait, Microsoft Surface, c'est un écran LCD, mais spécifique. En fait, chaque pixel est équipé d'une sorte de micro-caméra. Il y a un petit pixel CMOS qui récupère en fait la lumière qui est émise au-dessus de la surface de Microsoft Surface. Et donc ça, c'est pour ça que ça coûte très cher, c'est qu'ils ont été obligés d'avoir une usine de production d'écrans LCD qui a un procédé de fabrication spécifique. Alors que nous, on peut récupérer des écrans LCD standards du commerce qui équipent aujourd'hui des téléviseurs, des moniteurs informatiques. Donc il y a tout un marché comme ça, professionnel, où on peut acheter par exemple 100 000 dalles faites par un industriel coréen ou un japonais ou un chinois. Et équiper ces écrans LCD standards de notre système de capture de mouvement. En revanche, quand même, pour 8 000 $, ce que fait en plus Microsoft Surface, c'est par exemple, tu vas pouvoir poser ta carte de visite sur l'écran, elle va être scannée en temps réel, tu vas pouvoir mettre simplement tes doigts, il va y avoir du multi-touch du coup, alors pas du multi-touch capacitif comme sur un iPad, mais du multi-touch optique. Donc ça, c'est aussi d'autres applications possibles. Et cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir, si tu équipes tes pions, par exemple, comme dans les parties de Mansion of Madness, tu vas simplement les équiper d'une petite photo sous le pion. Du coup, tu as cette fonction aussi naturellement de tracking comme nous. Et finalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que...
C'est mieux d'acheter une Surface, en fait.
Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, voilà, et j'en viens à notre avantage.
Si tu as 8 500 $,
voilà.
Peut-être.
Voilà. Alors, j'en viens à ça. C'est que dans un lieu public... il est difficile, je ne dis pas que c'est impossible, mais il est difficile d'avoir des objets physiques laissés à l'usage du grand public. Alors il y a un pays où c'est possible, c'est le Japon. Pour y être allé plusieurs fois à Tokyo, les gens sont respectueux, c'est incroyable. J'ai vu des parcs à thème au Japon avec des pistolets hyper fragiles, des choses qui n'étaient même pas associées à un lien physique comme un filin, tu vois. Et incroyable, à la fin de la journée, c'est tout propre, les gens ne l'ont pas volé, ne l'ont pas vandalisé. Maintenant, tu vas dans n'importe quel endroit public en Europe, et particulièrement, des fois, quand même, il faut bien le dire, en France. C'est pas du tout pareil, c'est vandalisé, c'est volé, on voit, si tu regardes les Vélib dans Paris, dans l'état dans lequel ils sont, ça te donne une idée petit peu du...
On a exactement la même chose à Lyon.
Et alors, donc, j'en reviens à Microsoft, c'est pour ça qu'ils font ce qu'on appelle donc du B2B, business to business, ça consiste à aller vendre leur surface, par exemple, à Aéroport de Paris, une grande chaîne de restaurants, des grandes chaînes d'hôtels, choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'accueil d'un hôtel Hilton, c'est la classe. Et en même temps, tu peux laisser ça en libre service grand public. Tout va bien. Comme si tu veux, au pire, ce que tu as laissé, c'est des petits tags sous forme de bitmap. Donc, tout se passe bien. Nous, on s'est dit qu'on voulait faire le pendant, donc utilisation à la maison. Et là, à la maison, c'est très différent. Regarde, tu prends la console Wii, il y a des manettes. Bon, bah, les gens ne se volent pas les manettes chez eux. Tu vois, a priori, tu invites des amis chez toi ou tes enfants amènent des copains. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait posséder dans son séjour des objets physiques qui ont une petite valeur, qui peuvent contenir du coup un peu d'électronique. Du coup, ça nous oblige effectivement à équiper ces objets donc d'un minimum d'électronique. Et si on accepte ça, on peut faire drastiquement baisser le coût de possession. Donc, encore une fois, j'avais envie de remettre ça au carré, parce que c'est vrai que quand on fait des salons aujourd'hui, souvent on donne des interviews qui durent 2 minutes. Et quand on va au plus simple, on a tendance à dire notre produit, c'est Microsoft Surface à 400. Et en fait, j'avais envie d'expliquer, d'arrêter un petit peu de cette lutte qui n'est pas une lutte, parce qu'on compare des choses qui ne sont pas exactement, oui, exactement comparables. Ouais. Et voilà, je vais en profiter pour...
un dernier point là-dessus, c'est que, en fait, je suis d'accord avec Valentin, ils ne sont pas vraiment comparables. Ils n'ont même pas été même pensés pour la même chose. C'est-à-dire qu'on peut mettre des objets sur la surface de Microsoft, mais ce n'est pas pensé pour ça. Ça a été pensé pour être une grande surface tactile, à l'horizontale, une grosse table, effectivement, faite pour le business to business. Nous, on a vraiment voulu toucher des objets. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait dériver un écran tactile pour voir si on peut mettre des objets dessus. Ça a été pensé pour qu'on puisse mettre des objets dessus, parce que c'est tout l'intérêt. On pense que d'un point de vue usage, le tout tactile, c'est bien. Mais l'iPad le prouve, c'est très très bien, mais il y a une frustration, c'est qu'on ne touche pas ces maudits objets qu'on aime bien finalement. Et c'est un peu comme si on disait, on joue à un jeu de société, on enlève tous les pions, les figurines, parce qu'on va juste, je sais pas, mettre des petits morceaux de papier ou je sais pas quoi. Il y a un vrai plaisir quand même à retrouver le plaisir tactile des objets, et c'est un des besoins auxquels répond l'Hippone Arena finalement.
Alors autre chose qui, avec ces fameux tags dont j'arrête pas de parler, hein, on a aussi, en plus de la position et de la rotation, on a l'identification. Donc ce truc-là, ça veut dire que si tu démarres une partie avec un de tes pions, c'est le petit cheval blanc, l'autre pion, c'est un tank, tu peux faire même... Tu n'es pas obligé, comme avec ton doigt sur une tablette tactile, de faire tout le trajet d'un point A à un point B en suivant parfaitement... Enfin, en laissant ton doigt sur la surface, de peur qu'il y ait rupture dans le tracking. Là, ce qui se passe, c'est que tu prends ton pion, tu réfléchis pas, tu le mets à n'importe quel autre endroit par un saut de puce, et à nouveau, il sait que c'est bien ton cheval blanc qui s'est déplacé. Donc ça, ça a l'air de rien, mais le tactile, le problème du tactile, c'est que les doigts ne sont pas identifiés. Et on l'a vu parce qu'on a travaillé avec Funforge sur, ils ont sorti donc sur l'iPad Inventorium, qui consiste à être 4 autour de la table. Et chacun a en fait la possibilité de miser. Et ça, on s'est aperçu que dans l'usage, c'est terrible sur l'iPad, c'est que quand tu veux faire ça, par exemple, tu dois miser, imagine, tu as des jetons verts.
Dis pas trop de mal du jeu d'un...
Non, mais il est super. On s'est aperçu que dans l'usage, en mettant au point, donc en adaptant, on le dit en rigolant, mais on l'a adapté en 2 soirées, on expliquera après peut-être pourquoi on a pensé aussi le système pour que les éditeurs qui ont déjà leur jeu qui tourne sur ces operating systems qui sont iOS, Android ou Windows mettent pas 3 ans pour être compatibles avec nous. Ça, on verra, on le garde de côté. Et en tout cas, juste pour terminer sur Inventorium, ça a été une première validation d'usage qui fait que cette fois, quand tu mises, tu ne te prends pas la tête à suivre l'écran avec ton doigt, comme je disais, mais hop, tu vas miser là où tu dois miser. Et si tu mises en vert, ça reste vert. Si le joueur qui est devant toi doit miser avec des jetons rouges, il reste rouge. C'est bien sympathique aussi.
En fait, ce qu'on restaure en utilisant des vrais objets, c'est des gestes complètement naturels. C'est-à-dire que parfois, la tablette, elle impose un peu des mouvements qui ne sont pas tellement naturels, effectivement. Mmh. Aujourd'hui, tu ne déplacerais pas forcément un pion en le traînant sur la table, c'est tu ça. Vois.
Surtout quand la surface
sur
3 augmente.
Mètres. Sur une grande surface, tu prends ton pion, tu le lèves et tu reposes, il devrait être. Quand on joue un Inventorium avec la solution Hippone Arena, avec des petits pods un peu steampunk là, qui permettent de miser, tu as le geste naturel, tu veux aller miser à tel endroit, tu poses directement ton pod au bon endroit. Et on offre finalement, avec des objets naturels, des gestes complètement naturels. Et ça, c'est pas mal aussi.
Au niveau de la technologie utilisée, tu as commencé à y répondre.
Ouais.
On peut pas utiliser ses doigts alors sur le...
Ah, alors, on pourrait. Pourquoi ?
Alors ça, je pensais que la réponse serait non.
Alors, mais... Ouais. Alors, en fait, c'est non, mais.
Non, mais. Alors voilà. Alors, c'est encore le directeur technique qui parle, donc ça va être un petit peu technique. Je m'en excuse par avance. Aujourd'hui, le multi-touch capacitif, qui est en fait, on va dire, la meilleure façon de récupérer la position des doigts actuellement. C'est ce qui a fait donner toute l'avance technologique à l'iPhone et à l'iPad. Il implique quelque chose qui est un peu embêtant d'un point de vue prix. C'est que, alors, ça fonctionne avec une couche que l'on place au-dessus de l'écran cette fois et qui doit avoir des propriétés optiques qui fait que la lumière de l'écran LCD doit passer à travers cette surface. Et ça oblige à utiliser un métal qui s'appelle l'indium, qui est un métal qui permet de faire des fils très très fins et qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui laisse passer donc cette lumière de l'écran. Et ça, le problème, c'est que lorsque tu passes d'un 9 pouces de diagonale à un 26 pouces comme l'iPhone Arena, tu augmentes le prix de la solution. C'est au carré de la base de l'écran. Donc, par exemple, sur un 26 pouces, ça coûterait 5 fois le prix de l'iPad. Et on reviendrait dans une technologie proche de Surface Microsoft.
On était au CES, là, on a vu les écrans de 3M, par exemple, qui font des écrans tactiles, capacitifs. Le premier prix, tu commences à 2000 euros. Et t'as pas la surface qu'on a encore.
Et avec en plus une qualité optique pas terrible. Et ils y cherchent à faire une version à la maison.
Donc,
et pour 2000 euros, en plus, tu vois une sorte de petit quadrillage. Tu le vois, tu commences t'as l'impression d'avoir un petit livre d'écolier, tu sais, devant toi.
Donc on pourrait effectivement rajouter cette couche tactile au-dessus. Ça serait pas forcément intéressant d'un point de vue pricing. Par contre, ce qu'on peut se faire, c'est des petits sortes de dés à coudre, si tu veux, que tu mettrais au bout de ton doigt avec ton technologie qui permettrait d'avoir de sectionner des menus, par exemple. C'est tout à fait possible, techniquement. Après, il faut voir si l'usage est pertinent, mais en tous les cas, techniquement, on sait faire ce genre de choses.
Des petits pods de contrôle génériques qui seraient vendus avec la... On est au début du marketing de ce produit, donc... On a encore devant nous pas mal de tests d'usage, sur lesquels d'ailleurs Christophe va beaucoup travailler là, cette année. Et c'est super important de définir les interactions. Donc on y travaille.
On va rester un petit peu dans la technique. On est deux à animer ce podcast. Et mon compère m'a posé cette question, c'est quel langage que vous utilisez pour développer... qu'on doit utiliser pour développer les jeux. Et la deuxième question qui est un corollaire, c'est qui peut développer ? Est-ce que vous adressez aux entreprises, aux éditeurs, ou est-ce qu'à terme, vous visez un large public ? Est-ce qu'on pourra trouver, par exemple, l'édition de jeux homemade, je dirais, comme on peut trouver sur iPad, où chacun peut développer sa propre application ?
Alors, là, on parle bien des applications. Nous, on a des langages de programmation de très bas niveau pour programmer nous-mêmes les...
Ça, c'est pour la techno de tracking
dans l'iPhone Arena.
Mais ça, c'est pas vu
l'extérieur. Et au niveau applicatif, aujourd'hui, on fournit un SDK, un Software Development Kit, une librairie de programmation, d'interface plus exactement, et elle est fournie en standard pour iOS, donc c'est de l'objectif C.
Ça, c'est sur iOS.
Donc ça va être effectivement des librairies de ce principe-là qui vont se pluguer ensuite dans les moteurs qui seront utilisés par les développeurs. Donc c'est très très basique. Hein.
Ouais. C'est super simple.
Deux appels de fonctions qui permettent de récupérer grosso modo un tableau avec l'identification du pion, sa position X, sa position Y, sa position Z. Voilà, c'est très 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 simple. Ça, c'est le niveau zéro d'intégration, mais ça permet déjà de faire plein de choses. C'est comme ça qu'on a intégré typiquement le jeu Inventorium. Alors après, là-dessus, il y a des différents moteurs graphiques. C'est pas notre métier, hein, mais n'importe quel moteur graphique peut utiliser et plugger avec notre SDK. Et pour répondre sur qui peut développer, tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui... Il y a des gens qui font leurs petites applications... sur iOS ou Android, ils pourront. Le SDK il va être mis à disposition gratuitement et tout le monde pourra faire son application. On n'a pas pour l'instant vocation, nous, à faire une sorte d'application générique qui ferait une sorte de premier jeu sur qu'on pourrait adapter, mais c'est très probablement des choses qui vont voir le jour. Par famille, on pourra peut-être faire une sorte de cœur d'application pour jouer à Donjons Dragons. Je serais pétonné que des passionnés fassent des moteurs pour tel ou tel jeu. les fameux modes, les fameuses modifications. Et puis, par ailleurs, des gros studios de développement de jeux, vidéo ou de société vont faire leurs propres applications. Donc nous, on donne les outils pour que les gens puissent s'amuser.
Alors, j'enfonce le clou parce que je vais redire sans doute peut-être juste la même chose, mais j'aime bien parce que ça nous plaît beaucoup. Si tu es, par exemple, tu es le chef de projet, je prends un exemple que tout le monde connaît, d'Angry Birds, tu vois.
Tu as de la chance d'être chef de projet.
Tu as de la chance déjà. Tu es très riche. Mais alors, en fait, tu as, par exemple, derrière, dans ce projet, il y a, je dis un exemple, tu as 6 années de développement. Il n'est pas question qu'on dise à cette société, les gars, consommez encore une année pour tourner sur notre machine. Mais on en rigole, mais n'empêche que. Il y a eu dans le passé des essais de faire des tablettes interactives, alors moins bien que cette technique-là, c'était des grosses cases, etc. Mais ils avaient mis un ordinateur dans la tablette, et donc il y a ce mot affreux qui s'appelle le portage. Et le portage, ça consiste à changer le code source de ton projet, par exemple tu es sur iOS, et tout ça parce que dans la machine, il y a un autre operating system, par exemple tu as un Windows, tu obliges le chef de projet d'Angry Birds à s'adapter à l'operating system dans lequel la tablette, utilisée par la tablette dans lequel elle aurait son ordinateur. Donc je le redis, la beauté aussi d'utiliser son smartphone connecté à la tablette, c'est qu'en fait tu ne changes rien à ton projet, tu insères notre petite librairie, comme disait Christophe, qui va te fournir les XY de tous les pions au-dessus de la surface, et tu n'as besoin d'intervenir que à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit toujours en rigolant, mais c'est vrai, avec quelques bières, on a, avec nos copains de Funforge, on a fait une adaptation d'Inventorium en 2 soirées. C'est pas une blague, c'est pas, on dit pas ça en rigolant seulement, ça s'est fait vraiment comme ça. SN commençait quel jour,
tu te 2 jours avant.
Enfin, c'était à l'arrache, parce qu'on est une start-up.
C'est un mercredi, le premier jour.
Gros, le lundi soir, on a commencé, peut-être un petit peu avant, grosso modo, on a commencé le dimanche, et le mardi, on partait avec notre inventorium sous le bras, qui avait été adapté. Donc c'est aussi la beauté du truc, c'est de ne pas dire aux chefs de projet de toutes ces boîtes, allez-y les mecs, passez une année. Non, c'est passer quelques heures à adapter votre jeu.
Et c'est vrai, moi je suis très sensible, tu sais, aux communautés qui développent des applications. On a parlé un peu de jeux de société, on pourrait même pousser un petit peu en parlant de jeux de figurines. Alors on n'est plus tout à fait dans le périmètre, mais quand même un petit peu.
Je vois bien Mémoire 44 sur.
Ouais,
sur
et Adam, même tu vois même les trucs de Private Press, les Warhammer, etc. Ouais. Les gens qui jouent sur la figurine. Alors, il faut une surface de tracking plus grande, mais nous, on sait faire. Et là, tu peux commencer à avoir des gens qui vont implémenter toutes les règles de Warhammer dans leur iPad. Et c'est fini, les combats de la ligne de vue, est-ce que je te vois derrière le buisson, machin, ça va être vite réglé. C'est-à-dire qu'il y aura un arbitre qui sera virtuel, donc complètement impartial. Et je vois très, très bien que des communautés de gamers dans ce domaine-là encodent complètement les règles sur la base de notre SDK, vont faire leur propre application complètement gratuite qu'ils vont diffuser. Et nous, on est super contents aussi avec ça, parce que si j'avais eu un produit comme ça, c'est ce que je ferais dans mon coin. Notre vocation, ça n'est pas de vendre le SDK, on le donne. Par contre, derrière, ça veut dire que les gens qui vont vouloir exploiter l'application vont devoir juste équiper leurs figurines avec des petits socles compatibles et que nous, qu'on vendra. Mais l'idée, c'est effectivement de laisser à chacun la liberté. C'est un petit peu... c'est pas l'open source, mais enfin, en tous les cas, c'est... On a une super idée, on ne pourra pas tout faire et on nous dit qu'il y a des tas de gens dans la communauté qui vont pouvoir s'amuser comme des furieux, des idées qu'on n'a même pas et qu'ils auront. Il faut toujours d'avoir 10 cerveaux qu'un seul, et plus il y a de monde qui va s'amuser autour de ça, plus on sera content. Hein.
D'ailleurs, on a beaucoup parlé de jeux de société. C'est vrai qu'on est un peu différents, Christophe et moi. Moi, j'ai aussi pensé le système pour qu'il soit temps réel, parce que j'avais en tête aussi des jeux d'action. C'est pour ça que, et ça a bien plu au CES, tu vois, il y a un Air Hockey avec des petits palets rouges que tout le monde connaît. Donc, il y a une balle, évidemment, virtuelle. Mais on utilise donc c'est un jeu de réflexe. Moi je suis un peu rétro gaming, donc moi, j'imagine des choses, tu vois, comme des shoots 'em up, tu te souviens des R-Type, tous ces petits jeux un peu sympathiques. À l'époque, le problème, pourquoi il y avait peu de, finalement, soit il y avait des gens qui adoraient les R-Type comme moi, soit il y avait carrément des gens qui ne voulaient pas les utiliser. C'est parce qu'il y avait, entre le joystick et l'écran, on ne jouait pas au même endroit. Il fallait que ton cerveau, en fait, comprenne qu'il avait dans ses mains quelque chose à piloter, et il fallait qu'il regarde l'écran. Et, et donc, il y avait un déplacement, finalement, d'usage entre ce qu'on regardait et là où on utilisait le joystick. C'est ce que, justement, l'iPhone a changé ce fait, cet état de choses. C'est que maintenant, il faut voir tous les gens, ils jouent en mettant leurs doigts dans l'action. Donc, je reviens à notre iPhone Arena. Ça pourrait remettre au goût du jour des tas de jeux de tir, des jeux d'action 2D, d'ailleurs, parce qu'on a une vue de dessus. Et avec les pions, en fait, tu vas t'en servir pour piloter le vaisseau, piloter la rotation du tir, tout ça en direct. Et moi, je me souviens, dans les AirTaps, il y avait aussi souvent... on était en plus... Donc la difficulté, c'était de piloter des choses à deux endroits. Donc on a deux mains, on pourrait utiliser en fait deux pions, l'un par exemple pour moduler les effets de tir ou choisir certains angles de tir, et l'autre pour évidemment slalomer entre les différents météorites, etc., enfin piloter le vaisseau. Et ça, à mon sens, ça pourrait faire revenir dans ces jeux un peu à l'ancienne une nouvelle génération de joueurs qui ont aujourd'hui entre 9 ans ou même en dessous jusqu'à 77 ans. Donc les jeux d'action, à mon sens, ont toute leur place sur ce genre de surface. Et comme, encore une fois, on est une petite société, avec le SDK, on va pouvoir laisser explorer ça aussi par d'autres boîtes qui vont s'amuser à porter des anciens jeux ou en développer des nouveaux facilement grâce à notre système.
Il y a quelqu'un d'autre que vous dans iPhone? Vous dites que vous êtes une petite société.
Ouais, on est une petite société, c'est vrai, on est moins de 100. on est 4 aujourd'hui, 4 employés. On va faire grossir un peu l'équipe dans l'année aussi. Tout dépend effectivement de l'évolution des contrats qu'on va enchaîner. Mais ça a vocation effectivement à grossir. On ne veut pas devenir une multinationale, mais enfin... On va grossir un peu. Pour l'instant, on est encore dans une taille start-up.
Alors les deux autres personnes ont encore des profils très techniques. Aujourd'hui, c'est vraiment Christophe qui est plus dans le business development. Il ne fait pas que ça, mais c'est une de ses nombreuses attributions. Et les deux autres personnes, pour l'instant, comme on est encore en phase d'industrialisation, il y a en gros, avec moi, un ingénieur et un autre ingénieur spécialisé en électronique. Et on a beaucoup parlé de logiciels et de SDK et d'applicatifs. Donc c'est une autre personne qui s'occupe de tout l'aspect software. Et donc ça nous permet d'avancer à équipe réduite, beaucoup d'intelligence pour s'en sortir malgré tout ce qu'il y a à faire.
J'en profite d'ailleurs pour lancer un petit message, hein, puisque on fait du business développement, on fait beaucoup de technologie, parce qu'il fallait que la plateforme soit prête. Maintenant, on bascule sur des modes usage, jeu, etc. Donc, en tant que gamer, moi, j'ai un certain nombre d'idées, puisque ce produit était pensé pour faire des jeux dans ce périmètre-là. On est très, très ouvert aussi aux suggestions de gens qui seraient game designers, qui voudraient porter, qui ont des tas d'idées sur le sujet, pour venir réfléchir avec nous, éventuellement développer des concepts sur la base du plateau. Donc, je profite que l'on soit sur un podcast très typé jeu pour faire un appel vers les game designers.
Vous avez déjà eu des contacts avec des auteurs de jeux ?
Absolument.
Oui.
On peut savoir.
On a parlé avec certains. On n'est pas forcément en deal avec eux, mais il y a une petite anecdote. Christophe Bollinger qui a fait 2-3 jeux un petit peu sympas quand même.
Horse Reborn
par exemple, Dungeon Twister, enfin des choses comme ça. Juste avant Essen, je lui envoie un petit mail. On se connaissait pas. J'ai chopé son email. Il dit, Christophe, on se connaît pas, mais on fait un truc qui peut être sympa. Retour de mail, il me dit, ouais, je regarde, on verra. On part dans le taxi pour Essen, on allait prendre l'avion. Je reçois un coup de téléphone, un numéro que je n'ai pas. J'ai une voix d'un mec complètement hystérique au téléphone qui me dit « Je viens de voir ta vidéo. » Alors c'est Christophe. je me suis dit « C'est bon, je sais qui c'est. » Et il me dit « C'est génial ton truc, est-ce que tu vas vraiment Essen ? On se voit là-bas, on s'est vu sur place. » Et bon, il a juste adoré. Donc il me dit « Dès qu'on peut faire quelque chose d'un peu sérieux, on travaille sur le sujet. » Donc on discute avec lui, on discute avec d'autres, effectivement. Mais cette anecdote-là, c'était vraiment la réaction de quand il a vu la vidéo, ce qu'on pouvait faire avec le potentiel. Bon, c'est un garçon très créatif, il a quand même fait des super jeux. et avoir un retour direct comme ça, très, très tripal, par téléphone, à l'arrache comme ça, j'ai trouvé ça vraiment... On s'est dit, bon, ça y est, on est une bonne plateforme pour les game designers.
Et en termes d'éditeurs, est-ce que vous avez déjà eu des retours d'éditeurs intéressés? Le paysage ludique français?
Ouais. Alors, on s'est un peu découvert. On n'a pas contacté pour l'instant des gens comme Asmodée, par exemple. On a vraiment focalisé sur l'aspect technologique, donc on a plutôt avancé sur ces aspects-là. On a aussi frappé à la porte de deux mondes, le jeu vidéo et le jeu de société. Et en particulier, on a été voir des très très gros pour pouvoir éventuellement nous aider sur l'industrialisation. Donc on a plutôt été voir des gros éditeurs de jeux vidéo. Mais on commence à avoir des retours, effectivement, de l'écosystème français en particulier, du jeu de société. Depuis le CES en particulier, on commence à avoir un petit peu de buzz autour de la société, on commence à nous connaître, et j'ai même des magasins de jeux qui me disent quand est-ce qu'on vend ce truc-là. Donc il va être temps effectivement qu'on aille frapper à la porte des éditeurs pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Tout à fait.
Et alors quand est-ce qu'on pourra ?
Alors on vise aujourd'hui une sortie du produit à la fin de l'année. On a un petit peu de R&D à finir, et puis là on rentre dans la phase justement d'industrialisation qui prend un petit peu de temps, et l'objectif c'est d'être en fin d'année avec un produit qui va sortir très probablement d'ailleurs peut-être en deux temps, une version sans écran puis une version avec écran. On va voir si on fasse ça au même moment.
En privilégiant quelle version ?
Alors on se dit que peut-être on peut commencer par la version sans écran et puis mettre la version avec écran juste derrière. Enfin, c'est encore des choses qu'on affine. C'est justement là la discussion avec des éditeurs typiquement qui va permettre d'affiner un petit peu ce qu'on pourra sortir en premier. Et puis, il faut aussi qu'on laisse le temps à nous d'une part et à nos partenaires éditeurs de jeux ou de game designers de faire du contenu. Une plateforme sans contenu, ça n'a pas beaucoup de sens. Et l'idée, c'est qu'on sorte avec un bundle de quelques jeux. Alors, des jeux peut-être simples, on peut penser à des jeux d'échecs, par exemple, qui pourraient aussi avoir un bénéfice. Alors, on est tout à fait dans le domaine du jeu de société, mais apprendre à jouer avec la formation qui s'affiche directement en dessous, ça te donne des bons coups, ce genre de choses. Effectivement, avoir des portages de jeux existants. On a beaucoup parlé de Mission of Madness. Je vais bien finir par convaincre Christian Peterson qu'il sorte un bundle avec nous à la fin de l'année sur ce jeu-là.
Je vais te faire un chèque en blanc.
Voilà.
Avant de partir, et ouais. Puis si tu pourras l'encaisser.
Exactement. ça peut se tenter. Et puis, quelques autres. Je sais pas, j'ai vu des portages sur iPad de Cité des voleurs. Il y a Small World, on peut se poser un certain nombre de questions comme ça. Et puis même nous faire des contenus qu'on a en tête sur ce sujet-là. Et ça prend un peu de temps. Donc c'est pour ça que finaliser le produit lui-même, en termes de le rendre prêt à être vendu en masse pour la fin de l'année, et puis avoir du contenu, un bundle de 4-5 jeux idéalement, qui serait disponible au même moment. Mm-hmm.
Très bien. Et le mode de commercialisation, est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait se passer ? C'est-à-dire, ouais. Est-ce qu'on va acheter un écran nu, et après on aura la possibilité de télécharger des jeux ? Est-ce qu'il y aura un bundle avec...
Il y aura très probablement un bundle. Alors, structurellement, vu qu'on est une plateforme comme une console de jeu, tu vas acheter une Ippon Arena ou une Screenless Arena et tu auras par la suite la possibilité de télécharger sur ton iPhone ou sur ton smartphone Android de nouveaux jeux. Mais évidemment, pour le lancement même du produit, comme je le disais, on prévoit plutôt une formule bundle, ne pas arriver avec un produit nu sans rien dedans, quelques jeux, probablement un produit phare, et puis quelques jeux un peu plus casual peut-être pour l'accompagner. On est en train de définir ce bundle justement, et l'idée effectivement après, c'est de pouvoir de plus en plus avoir des jeux qu'on va télécharger, et puis on achètera par ailleurs les petites figurines qui vont avec chacun des jeux pour y aller, quoi.
On n'en a pas parlé pendant ce podcast, mais on a la possibilité aussi d'avoir des objets qui bougent tout seuls. Alors, comment ça fonctionne ? Parce qu'à chaque fois, les gens font des... Ils ne comprennent pas. Parce
ils ne croient pas. Ouais.
Ils ne croient pas. Donc, moi, je mets quand même ma réputation en jeu. C'est pour ça que, de toute façon, vu qu'au CES, je l'ai dit à chaque fois, je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas sur ce podcast. Donc, le principe est le suivant. Je dirais qu'on a fait le plus difficile. On est capable, donc, d'avoir, le calculateur, donc qui est le smartphone ou la tablette, est capable d'avoir en temps réel donc les positions x, y de chacun des objets que tu poses sur la table. Maintenant, le principe, c'est que si ces objets ils ont la capacité, par un petit moteur ou par un petit vibreur, de pouvoir se déplacer d'avant en arrière, gauche à droite, un petit peu comme des jouets télécommandés, mais en plus simple. Parce que, justement, on va pouvoir simplifier énormément l'électronique, puisqu'on a, on est arrivé à faire un tag simplifié qui permet de récupérer en temps réel donc, la position sur la surface. En fait, c'est là où les geeks vont me comprendre, les autres vont avoir du mal. Le principe, c'est que le système va être capable de les téléguider en temps réel, c'est-à-dire que comme il connaît à chaque moment, il connaît la position donc, sur cette surface, il est capable de corriger le tir et de dire, par exemple, s'il y a une certaine trajectoire à suivre sur la surface, parce que imagine tu as un combat de robots et pour X raison il y en a un qui doit faire une trajectoire en arc de cercle et l'autre doit faire un tout droit, en fait il va pouvoir corriger la direction de ce pion autoguidé grâce à la capture de mouvement. Donc en fait, dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle en termes ingénieurs l'asservissement de position, un mot un peu barbare. Mais dans le plus dur dans l'asservissement de position, c'est la capture de mouvement. C'est le plus difficile. Et c'est résolu par la technologie actuelle. Et donc, j'invite les auditeurs à suivre un petit peu le site web d'Hippone Arena. Je ne vais pas donner de date, mais ça va bientôt venir. On va avoir aussi les premières démonstrations d'autoguidage. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que c'est vrai qu'au départ, on a quand même, avec Christophe, voulu rapprocher un peu les gens, éviter qu'on soit tous autistes devant notre écran. Mais on se dit quand même qu'il y a des parties où on est trois à Paris, et il y en a un qui est à New York. On ne peut pas s'empêcher.
Ou à Lyon.
Ou à Lyon.
Perdu là-bas.
Ouais, on va dire on est dans le même créneau horaire quand même. Et c'est quand même génial que toi qui es à Lyon, on t'appelle et on commence une partie. On a, par exemple, trois pions chacun avec Christophe, et on voit tes trois pions qui, lorsqu'on joue, se bougent automatiquement, suivent l'action, etc. C'est quand même un truc magique. Moi, j'avais 10 ans quand Star Wars est sorti. C'était un des plans qui m'avait marqué dans Star Wars, c'était la partie d'échecs. Je ne sais pas si tu te souviens, l'épisode 4, dans le Faucon Millennium, tu as une partie d'échecs avec ce que les gens appellent communément les hologrammes. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot hologramme? Il y a surtout en fait l'envie, c'est ce qu'on a compris avec Christophe, dans ce mot hologramme, il y a envie d'avoir une rematérialisation des choses. En fait, que lorsque tes pions d'échecs bougent tout seuls sur la surface, tu as une certaine matérialité quelque part qui te permet de regarder sous n'importe quel angle ton plateau et de voir correctement les choses. Ce qui n'est pas possible sur un écran plat. Il n'y aurait qu'une seule techno qui pourrait remplacer, c'est le relief. Mais un des problèmes du relief, c'est qu'on ne peut générer qu'un point d'observation. En fait, dans la salle de cinéma, quand on regarde tous Avatar, sans le savoir, on est obligé de regarder la position de caméra choisie par le réalisateur. Quand on est plusieurs autour de la table, ça ne marche plus. Et la seule solution, c'est d'avoir des objets matériels qui peuvent être regardés sous tous les angles. Alors après, il y aurait les vrais hologrammes, mais on rentrerait dans des technos inabordables pour l'instant. Là, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, peut-être dans 30 ans. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et nous, avec ces objets qui bougent tout seuls, on a l'ubiquité, puisqu'on est connecté par Internet, et on va pouvoir voir donc tes propres pions qui bougent depuis Lyon, mais également, on a ce côté presque holographique dans l'expérience de jeu.
Alors, j'ai rajouté un
truc.
C'était
très geek. Hein.
Ouais, pour ceux qui ont décroché depuis une demi-heure, voilà. Parce que en fait c'est Proxy Jeux et c'est pas Proxy Geek le podcast, qui sont endormis, je vais les sauver. Je vais leur parler un petit peu de jeu.
Mais ils ont sauté.
Revenez.
Je chapitrerai en fait.
Ouais. Pouvoir, ouais. Et en fait, un point intéressant, il y a l'ubiquité certes, mais on parlait tout à l'heure de Mansion of Madness. On a déjà sauvé la vie du maître de jeu en évitant la préparation parce que le jeu tourne va s'afficher dans l'iPad quand on retourne les pièces. Mais il faudrait toujours normalement un maître de jeu pour déplacer le shogot, le monstre. Où est-ce qu'ils vont ces monstres? Qui vont attaquer? Eh bien, on en a tellement enlevé le maître de jeu que quand le shogot doit apparaître, l'iPad va nous dire « Vous rentrez dans la cuisine, il y a un shogot dans telle pièce. Vous mettez le shogot. Boum. » Et après, autour de la table, on a toujours 4 explorateurs, il n'y a pas de maître de jeu. Et shogot, en fonction des déplacements des joueurs, va se déplacer, va attaquer, etc. Ce qui fait qu'on a enlevé le rôle du joueur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met un maître de jeu? C'est parce qu'on voudrait faire participer tous les joueurs, mais il faut bien trouver un pauvre pigeon qui fait un peu le boulot. Et bien le pauvre pigeon, il s'appellera plus Christophe Dutheil, voilà. Il s'appellera iPad, et il va faire le boulot. Et grâce au déplacement, ça serait aussi sympa, on pourrait dire, oui, déplacer le Shoggoth là. Mais alors, si en plus l'iPad pilote le Shoggoth pour qu'il se déplace tout seul et vienne vous dévorer votre investigateur dans la cuisine, quel pied, quoi.
Effectivement, c'est mieux expliqué.
Bah, surtout, c'est plus jeu. Parce que là, non, mais en fait, c'est là où on est très complémentaire. C'est que Valentin adore la technologie, mais en fait, ces technologies-là, appliquées au gaming, c'est juste le pied. Donc en fait, on a fait un truc qui est pas mal, c'est on a conçu d'abord un produit. On a cherché une technologie qui permettait de répondre au produit. Et en étendant la technologie, on referme la boucle, puisqu'on peut même faire des choses que je n'ai même pas imaginées au début sur le produit. Mais en discutant avec Valentin, il me dit « Ouais, mais attends, technologiquement, on peut faire ça. » Et moi, qui vais absolument sauver ma pauvre peau de maître de jeu de Mansion of Madness, je suis sauvé. Je disparais, je vais enfin pouvoir investiguer.
Enfin, on a encore du temps à travailler quand même sur les usages aussi. Moi, c'est pas grave si une partie on bride une partie de la créativité technique. Je n'ai pas de problème là-dessus. Donc l'usage, c'est le plus important, et ce qu'on veut faire si Ipone grandit, c'est avoir une espèce d'endroit pour, et là je rejoins ton appel aux game designers, c'est que plus tard idéalement on voudrait un endroit où ils viennent même tester
une sorte de showroom
où, évidemment géré au niveau usage par Christophe, mais avec aussi faire venir des on va dire des œils neufs de l'extérieur qui fassent des parties, qui utilisent le système et qui disent « Ah, là, quand même, ouais. Ça manque encore, ce truc-là. Ce module-là, il ne sert à rien. Ce module-là, il faudrait l'améliorer, etc. » Donc, ça ne s'arrête jamais. Et c'est aussi une boîte qui va devoir aussi constamment s'améliorer. Enfin, bref.
Ce qui est génial, c'est comme on apporte un usage qui est finalement très, très nouveau, tout est à découvrir. On a imaginé tas de choses parce qu'on a des envies en tant que gamer ou en tant que responsable technique. Mais c'est un petit peu comme quand les tablettes sont arrivées finalement. Tous ces usages de tourner des pages en mettant des doigts sur l'écran, en écartant les doigts pour faire un zoom, c'est devenu nouveau. Bah, je suis convaincu, et Valentin aussi, qu'en mettant des objets sur une surface, des tas d'objets nouveaux, des tas de gestes nouveaux, vont très naturels finalement, auxquels on n'a même pas pensé parce qu'on est aujourd'hui contraint avec des claviers, des souris, à interfacer avec un système informatique. Demain, ce sera avec des vrais objets. On va avoir des tas de trucs vraiment sympas. Et c'est pour ça qu'on veut mettre un petit peu cette espèce de labo d'usage en place. Alors, pas tout de suite, mais enfin très dans les mois qui viennent, enfin plutôt de deuxième partie d'année. Quoi. Mmh. Ça serait vraiment un intérêt vraiment sympa.
Est-ce que vous avez aussi des projets dans des domaines qui ne sont pas ludiques ?
Plein. Alors, il y a plein d'utilisations possibles. Après, est-ce qu'on les fera tous ? Est-ce qu'on va les déléguer ?
Oui.
Mais c'est vrai que... Alors, il y a tout le domaine du serious game, qui n'est pas si loin finalement du ludique, hein, mais on vient l'un et l'autre d'un passé chez Thales, où on faisait des simulateurs pour les militaires ou pour les civils. On voit bien que dans le militaire, les préparations de missions, par exemple, sur des grandes surfaces comme ça, avec des petits chars, des petits hélicos, préparés, c'est un peu guerrier, mais... On rejoint le wargame, on n'est pas si loin, finalement, d'une certaine façon. Tout ce qui va être éducation, des enfants avec des objets autour d'une surface, d'ailleurs, ce que fait parfois Surface Microsoft, mais là, on dira éducation nationale, pour le coup, sauver vos impôts, et puis... Enfin, nos impôts, en l'occurrence.
C'était français.
Voilà, acheter français, madame, et moins cher. On peut parler de formation en entreprise, situation en contexte, autour d'une table avec des objets, ce genre de choses. Bref, des usages sans fin.
Une autre application aussi qui me tient à cœur, pour celle-là, j'espère que Ipone pourra aussi l'adresser un peu sérieusement, on verra. C'est la robotique. Un des problèmes de la robotique actuelle, d'abord, elle fait beaucoup rêver les gens. Il n'y a qu'à voir, tu te souviens de ce petit chien robot chez Sony qui s'appelait l'iBot ?
Oui, tout à fait.
Il a fait rêver beaucoup, beaucoup de gens. Et il y a une raison pour laquelle Sony n'a jamais réussi à abaisser son prix de vente. C'est toujours resté autour de 6 000 $. C'est marrant, on en revient encore à un produit extrêmement fascinant, comme Microsoft Surface peut l'être, mais très difficilement abordable pour une utilisation à la maison. Alors pourquoi ? C'est parce que... Tous ces robots, ils ont une problématique, c'est leur captation de mouvement. Un exemple, tu sais, un des gros succès de 2011, c'est le fameux aspirateur.
Le Roomba.
Voilà, le comment tu dis ?
Le Roomba.
Voilà. Roomba, parce que je ne connaissais pas ce nom-là. Mais...
Enfin, c'est le iRobot. Ouais, la compagnie, c'est Aerobot, et ils ont fait un truc...
Alors, ils ont réussi quand même à l'industrialiser, mais il est équipé, en gros, d'une puissance de calcul, donc d'un microprocesseur. Il y a de l'analyse d'image, il doit faire, en gros, une cartographie de ta pièce avant d'arriver correctement à se repérer. Mmh. Et donc, ça fait un prix de revient extrêmement cher. Et ce qui fait que si je reviens maintenant aux robots qu'on aimerait tous, avec lesquels on aimerait tous interagir, avec lesquels on aimerait avoir des comportements presque sociaux entre eux, ou d'intelligence artificielle, ou des tas de choses comme ça, ça ferait des parties où il faudrait que chacun amène son AI-bot à 6 000 $. Donc ça, c'est juste pas possible. Et le fait qu'on arrive sur une surface sur ta table, parce que sans écran, on peut avoir presque un tapis qu'on déroule relativement de grandes surfaces, ça va te permettre de mettre plein de petits jouets mobiles qui sont très peu intelligents à l'intérieur, puisque l'intelligence est finalement déportée dans le smartphone. Ils seront uniquement équipés de nos fameux tags de capture de mouvement, et du coup ça va rendre possible des scénarios de course, des scénarios de, on va dire, de un peu interactifs, de stratégie, tu vois, des tas de choses comme ça. Et là je quitte le jeu de plateau, je suis plus dans des combats, des courses de robots, des matchs de foot de robots, des tas de trucs comme ça. On est qu'au début de brainstorming là-dessus, et avec finalement un petit coffret qui va contenir toute l'équipe de foot pour un prix abordable. Mmh. Donc voilà, peut-être que cette surface-là, si on accepte de la dérouler, il faut savoir par exemple qu'au Japon, les mètres carrés dans les séjours ne sont pas non plus énormes. Donc jouer déjà sur une grande table de 1,50 m par 80, c'est déjà très bien. Et donc c'est une vision qu'on peut avoir, c'est qu'il y aura aussi des jeux un peu jouets, interactifs, qui vont commencer à se mettre en place autour de l'Ippon Arena. Voilà, c'est une vision qu'on a pour la suite des événements.
On s'est posé aussi la question, puisqu'on te connaît un tout petit peu et on sait que tu as une tendance, une fibre écologique. Ouais. Est-ce que l'Ippon Arena et la Screenless Arena, est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce que vous faites attention à cette... À cet aspect-là aussi, quand vous créez avec Dipone.
Bon, c'est sans doute que ce produit écologiquement n'est pas exempt de tout reproche. Et de toute façon, le problème, c'est que tout bien de consommation nécessite des ressources, un recyclage, etc. Il y a un point qui m'a intéressé et qu'on a vu très très tôt avec Christophe. C'est à nouveau un point positif lié à l'utilisation donc du smartphone connecté à notre écran. En fait, les smartphones, c'est vrai qu'aujourd'hui, et on peut le regretter écologiquement, ils ont un temps d'utilisation très court. En gros, on veut te faire utiliser ton iPhone 6 mois maintenant. Ils sortent la version 3S, la 4, la 4S, etc. Et nous, le fait d'être un écran, ça permet de garder notre surface de jeu, l'Ippon Arena, on va la garder longtemps. Et au fur et à mesure que tu vas renouveler tes différents dispositifs que tu as dans la poche, tu vas les connecter à cette surface qui va rester comme un écran, donc quelque chose que tu gardes longtemps. Donc le but pour les gens qui vont acheter l'Ippon Arena, c'est pas de leur dire dans 6 mois il y aura autre chose, c'est vraiment de dire vous faites un achat responsable, vous allez garder ça longtemps sur votre étagère comme vous garderiez un jeu d'échecs. Par contre, si vous changez malheureusement de smartphone tous les 6 mois, eh bien c'est ce nouveau smartphone que vous allez brancher à l'Ippon Arena, mais vous gardez l'Ippon Arena avec un temps de cycle un peu plus long que les autres produits que vous achetez.
Mais ça, c'est peut-être un point positif, parce que ça veut dire que tous les 6 mois, on a de la puissance de calcul en plus, on a des possibilités en plus, et que l'Arena...
Évidemment, elle se bonifie, elle va se bonifier au fur et à mesure de l'évolution technique de tous ces appareils, et Christophe avait un autre point aussi.
Alors oui, donc il y a l'aspect pérenne que tu mentionnes, qui est vachement important. On retrouve finalement l'avantage même des jeux classiques, qu'on peut ressortir de placard quelques années après, ça sera pareil, puisqu'on le connectera aux surfaces. Mais il y a un deuxième point aussi, c'est nous, notre technologie, elle est active. Les pions, ils émettent des petites ondes, et on a passé beaucoup, beaucoup de temps en R&D, en recherche et développement, pour que la puissance nécessaire pour l'émission de ces petites ondes ne soit pas fournie par une petite batterie ou une petite pile
lithium,
qui serait un désastre pour le coup d'un point de vue écologique, puisqu'on aurait plein de petites piles dans tous les pions, mais toutes petites. Et donc on a passé beaucoup de temps, parce qu'on est très éco-responsable, à travailler sur des logiques, justement, l'énergie serait fournie par la tablette directement vers les pions. Et donc on n'aura pas une collection de petites batteries à l'infini dans tous ces petits pions-là, ils seront, je dirais, avec une signature écologique ou un impact écologique très très faible, puisqu'il n'y aura pas de batterie en particulier dedans. Donc ça, c'est, voilà. On a pris ça
on
en compte aussi.
On essaye d'aller un peu dans la bonne direction. Ouais. Maintenant, je te dis, là, dès que tu fais de la nouvelle technologie, le bilan est super difficile pour atteindre la perfection. Quoi. Mais bon, on essaye d'aller dans le bon sens. Quoi.
Mais en même temps, on évite de faire des pistes en carton, oui. Des boîtes en carton, et donc on sauve des arbres.
Alors ça, ouais. Alors
ça, le jeu de société n'est pas éco-responsable. Enfin si, maintenant, on a Queen Games qui a un label, mais... C'est ce que tu dis, Valentin. Si on avance...
Si on avance, on laisse un peu de traces, quoi. Mais nous, on tente effectivement d'avoir, de ne pas avoir des roues de tracteur derrière nous, des toutes petites traces de ski, quoi.
Merci Christophe, merci Valentin. Et si après ça, vous avez encore des questions sur Hippone ou l'Arena ou le Screenless Arena... Si vous voulez réagir à cette interview, vous laissez un petit commentaire sur le billet qu'on vous trouverait sur le site de ProxyJeux. Et vous pourrez trouver également des vidéos et les liens vers tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ProxyJeux. Et d'ici là,
jouez bien.